BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique. Et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business. Guillaume Paul.
Il est bientôt 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, il y a donc cette nouvelle réforme de l'assurance chômage vers laquelle on fonce tout droit. Gabriel Attal devra faire des annonces ce soir aux 20h de TF1. Gouvernement qui essaie de donner des gages aux agences de notation, pas de pot. C'est le jour qu'a choisi Moody's pour envoyer un sérieux taquet au gouvernement sur ses finances publiques. On va voir tout ça avec Thomas Asportas, bien sûr. Et puis on parlera tout ça avec nos experts, bien sûr, à partir de 18h30. Avec eux, on parlera aussi de la France, toujours elle, qui continue à créer des usines, pas beaucoup, mais qui continue à en créer. Et puis on parlera de casino parce que ça y est, la nouvelle équipe de direction a pris les commandes aujourd'hui avec beaucoup, beaucoup de défis à relever. Voilà le programme. Dans 10 minutes, c'est le fondateur de C'est qui le patron, Nicolas Chabanne, qui sera l'invité d'Edwige Chebriand. On est ensemble jusqu'à 20h. Très bonne soirée.
Good evening business, le journal.
Donc Gabriel Attal attendu aux 20h de TF1 ce soir après un séminaire gouvernemental ce matin sur le thème du travail, entre autres. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Guillaume.
Et donc on se disait, on se dirige tout droit vers une nouvelle réforme de l'assurance chômage.
L'engagement de mon gouvernement pour le retour à l'emploi est total, c'est ce qu'a tweeté Gabriel Attal, effectivement, à l'issue de ce fameux séminaire gouvernemental. Le Premier ministre va donc s'expliquer ce soir pendant une trentaine de minutes et d'après son entourage, il va, je cite, exprimer sa volonté très ferme d'avancer sur le dossier et donner les leviers et le calendrier de la réforme. Donc on va y voir plus clair et savoir concrètement quelle piste le gouvernement va retenir. Est-ce que c'est la baisse de la durée d'indemnisation qui est aujourd'hui de 18 mois dans le régime général? Est-ce que c'est la baisse de la durée d'indemnisation mais uniquement des seniors pour l'aligner sur le régime général? Dans ce cas-là, pour les plus de 55 ans, on passerait de 27 à 18 mois. Ou alors, dernière piste, est-ce que c'est durcir les conditions d'éligibilité? Aujourd'hui, il faut avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers pour avoir droit à des allocations. Ben, peut-être que ce sera plus que 6 mois à l'avenir.
Bon, donc les annonces de Gabriel Attal tout à l'heure à 20h. Et alors, on le disait, pas de chance au milieu de toutes ces annonces censé rassurer, entre autres, les agences de notation. Ben oui, c'est comme ça. Moody's a refroidi l'ambiance sur les finances publiques, c'est le moins qu'on puisse dire, là, Thomas, aujourd'hui.
Ah oui, ben alors là, c'est un euphémisme, vous dites, Guillaume. L'agence, effectivement, n'a pas tardé à réagir à la publication des comptes publics de l'INSEE hier. Ouais. Et juste, je cite, c'est le mot, et il est important, improbable, l'objectif du gouvernement de revenir à 2,7% de déficit en 2027. Elle juge aussi improbable, et réemploie le même mot, l'objectif de 4,4% de déficit pour cette année. Elle rappelle qu'il faudrait réduire le déficit de plus d'un point en un an, ce que la France n'a réussi à faire qu'une seule fois depuis l'an 2000, hors Covid, évidemment, des années exceptionnelles. Et de manière plus générale, l'agence de notation critique la stratégie de finances publiques de la France à moyen terme, qui repose, je cite, sur des hypothèses de croissance et de recettes optimistes et sur des économies sans précédent et toujours pas documentées. Enfin, elle anticipe une légère remontée de la dette tous les ans, sauf si la France engage un effort d'économie très significatif. Moody's précise que ce n'est pas un avis de notation à proprement parler, mais bien évidemment, ce n'est pas très engageant en vue de la note qui tombera, elle, très officiellement, le 26 avril.
C'est-à-dire dans un mois, à peu de choses près. Oui. Merci beaucoup, Thomas Asportas. Et puis, on continue, bien sûr, de parler de tous ces sujets jusqu'à 20h avec nos experts sur BFM Business. Sinon, dans l'actualité ce soir, alors je vous disais, grande journée chez Casino. Bonsoir, Pauline Tadevin.
Bonsoir.
Grande journée parce que, alors, ça y est, on ne sait pas encore vraiment. C'est aujourd'hui, en tout cas, que la nouvelle équipe dirigeante était censée arriver. D'ici ce soir, voilà, ça va être officiel d'ici quelques instants. Avec beaucoup de défis à gérer, et le premier d'entre eux, bien sûr, c'est de gérer ce gros plan social qui se précise, Pauline.
Un plan social qui s'annonce lourd déjà, notamment pour le siège historique de Casino à Saint-Etienne. Il y a 1800 salariés sur ce siège de Saint-Etienne. Près de 80% d'entre eux travaillaient sur les hyper et les supermarchés qui ont été cédés ces derniers mois à la concurrence. D'après nos informations qui confirment celles qui ont été déjà publiées par nos confrères de la Lettre, le plan social pourrait entraîner le départ de 1000 à 1200 personnes d'ici mi-août. Rien que sur ce siège de Saint-Etienne, donc sur 1800 personnes. Casino ne commente pas et ne donne pas de chiffres. Une source proche du dossier assure que l'objectif des repreneurs est de faire en sorte que ça se passe le moins mal possible. Le distributeur, on le sait, est le premier employeur privé local. Les repreneurs se sont engagés à préserver ce siège historique. Bercy suit depuis des mois le dossier de très très près. D'après nos informations, l'une des pistes qui est étudiée pour maintenir au maximum comme l'emploi à Saint-Étienne et d'y transférer des dossiers qui étaient gérés jusque-là dans les sièges de Monoprix et de Franprix en région parisienne. Plus globalement, Philippe Paladi, il veut renforcer les synergies entre les enseignes et mutualiser certaines fonctions, notamment les fonctions informatiques. Il veut aussi réhumaniser le groupe, assurer une source proche du dossier, réinvestir dans les magasins, réinvestir dans les personnels. Ce cinquantenaire qui a passé plus de 25 ans chez l'allemand Metro, dont Daniel Kretinsky est justement l'actionnaire majoritaire, connaît bien le secteur. Il vient avec l'envie de bien faire et de mieux traiter les gens, nous dit une source. Je ne crois que ce que je vois, nous dit un responsable syndical. Une autre responsable syndicale, fatiguée par plusieurs mois de démantèlement, nous confie que elle a envie d'y croire. Le couperet donc doit tomber d'ici une quinzaine de jours, mi-avril. Le plan, les organisations concernées, des chiffres qu'attendent donc ces syndicats qui redoutent qu'en tout 6000 emplois soient menacés, magasins et entrepôts compris, donc à l'échelle de tout le groupe.
Voilà pour l'ensemble des défis de la nouvelle direction qui devra prendre les commandes officiellement ce soir.
D'ici ce soir et demain matin, ils sont à Saint-Étienne.
Et il y a le départ de
les salariés.
Et pour rencontrer Stariel, le départ de Jean-Charles Naouri, dont on dira un mot, on entendra un porte-parole de l'intersyndicale qui a des mots très très durs envers Jean-Charles Naouri, qui va tirer sa révérence dans quelques heures. Merci beaucoup Pauline. Pauline Tadevin avec nous sur BFM Business. On va rester en France. Alors, grande question, et les chiffres, c'est Roland Lescure, le ministre de l'Industrie, qui les a donnés ce matin sur BFM Business. Combien de sites industriels ont vu le jour en 2023? Bonsoir Léa Rojo. En net, on a fait mieux finalement qu'en 2022, Léa.
Oui, exactement. Le bilan sur le nombre de nouveaux sites industriels en France affiche un solde net positif. 201 ouvertures et extensions nettes d'usines en 2023 contre 176 en 2022, soit une hausse de 14%. Concernant le nombre de nouvelles usines en France, on comptabilise 57 nouveaux sites sur le sol français en 2023 contre seulement 49 en 2022. Du côté des fermetures ou réductions, 113 usines ont fermé et 40 réductions significatives ont été enregistrées. Parmi les secteurs les plus dynamiques, sur la première marche du podium, on retrouve le secteur de l'agroalimentaire qui comptabilise 47 ouvertures nettes de sites industriels en 2023, suivi des industries vertes et l'économie circulaire, puis le secteur de la santé avec 20 nouveaux sites. Parmi les secteurs les moins actifs maintenant, la filière papier-carton perd un site, le secteur de la plasturgie et les industries extractives restent stables.
Et alors, grande question, quelles sont les régions qui séduisent le plus les entreprises, Léa, aujourd'hui ?
Alors, il y a deux régions qui se distinguent, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine, qui concentre à elle seule 50% des ouvertures nettes, comme en 2022. A contrario, la région des Hauts-de-France est une des régions les moins attractives en France, avec un solde négatif de -9, après -6 en 2022.
Voilà pour les chiffres de 2023. Merci beaucoup Léa Rojou avec nous sur BFM Business. Et puis un mot d'entreprise, il y a du nouveau chez Renault-Nissan. Renault a annoncé ce matin qu'il cédait l'équivalent de 7% du capital du japonais. Ce qui intrigue, c'est qu'il ne devait pas se désengager aussi vite. Ça laisse penser que le groupe a vraiment besoin d'argent frais aujourd'hui. Justine Vassogne.
La participation de Renault dans Nissan fond comme neige au soleil. 6 mois après la fin de l'alliance, le constructeur français s'est déjà engagé à vendre 12 des 28% du capital de Nissan, qu'il avait logé dans une fiducie, un trust dans lequel Renault peut aller puiser sans limite dans le temps. Le groupe a ainsi toujours indiqué vouloir attendre le bon moment pour surtout ne pas brader sa participation, car le cours de bourse de Nissan est aujourd'hui 2 fois moins élevé que la valeur de ses actions inscrites au bilan de Renault. En vendant 12% de son capital, Renault enregistrera une moins-value comptable qui pourrait aller jusqu'à 2 milliards d'euros. Mais il va aussi récupérer plus d'un milliard et demi d'euros de cash. Ces cessions justifiées aujourd'hui Renault lui permettront d'accélérer son désendettement et d'améliorer sa notation financière. Mais certains observateurs y voient un lien direct avec l'abandon de l'introduction en bourse d'Ampère. Renault espérait en retirer 1 milliard et demi d'euros de cash grâce à de bons résultats financiers. Le constructeur assure avoir les fonds nécessaires pour financer sa nouvelle filiale électrique jusqu'en 2025. Mais la question de l'après va vite se poser.
Voilà, Renault qui accélère sa sortie du capital de Nissan. 18h07, on va sur les marchés. Les marchés, bonsoir Aude Kersulek depuis Euronext à la Défense. Journée
bonsoir.
En hausse sur le CAC 40, qui a même battu un nouveau record apparemment en séance tout à l'heure, Aude.
Oui, on peut penser que c'est une semaine calme avec, c'est vrai, des petites progressions, plus 0,25% aujourd'hui, mais il ne faut pas se fier à l'eau qui dort. Ça n'empêche pas d'atteindre de nouveaux records. Alors, il y en a eu deux aujourd'hui. Il y en a eu un en séance. On est monté jusqu'à 8230 points. On a poussé d'un petit point par rapport au précédent record de la semaine dernière. Et puis, il y en a eu un en clôture, puisqu'on avait clôturé à 8201 points. Là, on a clôturé à 8204 points. Donc, on l'a battu de 3 points. C'est tout petit, mais ça suffit. Il y a eu plein d'autres records aussi en Europe, notamment à la bourse de Francfort, à la bourse de Milan ou sur l'Eurostox 50 ou encore le Stoxx 600. C'est toute l'Europe boursière qui continue de progresser. Tout ça se fait alors qu'on est dans une semaine de 4 jours avec pas de séance vendredi, pas de publication majeure, une seule vendredi, donc on ne pourra pas l'arbitrer. Du côté des valeurs, on a eu quand même quelques prises de bénéfices. C'est le cas pour Schneider qui a baissé de 3% aujourd'hui à 209 euros, mais on avait atteint un plus haut historique. C'est le pendant aussi parfois d'atteindre des plus hauts, c'est qu'il faut vendre pour empocher. Et en tout cas, donc on finit à plus de 8200 points pour le CAC 40. Notre prochain objectif, c'est les 8250. Ça constitue toujours une barrière psychologique pour les investisseurs.
Merci beaucoup, Aude Karsulek. On regarde ce qui se passe à Wall Street. Évidemment, on est à la mi-séance aux États-Unis. Le Dow Jones, on va le voir dans un instant, qui grappille 0,7%, 39 556 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui grappille 0,1%, 16 338. Tout ça à la mi-séance, bien sûr. 18h09, le fondateur de C'est qui le patron, Nicolas Chaban, est l'invité d'Eddy Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant. Bonne soirée.
BFM Business présente Eddy Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, je reçois quelqu'un qui a beaucoup d'annonces à vous faire. Vous le connaissez bien, c'est Nicolas Chaban, le patron de C'est qui le patron ? Bonsoir Nicolas, merci d'être avec nous. Vous êtes venu avec des tas de choses parce que vous vous lancez. En fait, C'est qui le patron ? C'était dans le lait, surtout sur le lait. Vous défendez les agriculteurs, les éleveurs. Et là, maintenant, vous allez nous raconter ça. Vous vous lancez dans les fruits et légumes et puis dans ce qu'on appelle les gueules cassées. Ouais. Beaucoup de sujets à voir avec vous parce qu'on parlera aussi de cette fameuse loi Egalim 4 qui est en préparation, sachant que la loi Egalim ne tient pas compte des fruits et légumes, alors que c'est pourtant au cœur de la production française. On parlera de souveraineté agricole et puis on parlera de cette loi d'orientation agricole. Mais d'abord, commençons par tout ce que vous avez devant vous. Pourquoi C'est qui le patron ? C'est quoi ? C'est 16 millions déjà de consommateurs, oui, avec la brique de lait. Et bientôt, les fruits et légumes.
Voilà, 16 millions de consommateurs partout en France qui amènent quelques centimes de plus pour aider les producteurs de lait. Il faut les saluer parce que ça a changé des vies de beaucoup de familles en France. Et là, on a eu un appel. Rappelons qu'on est une coopérative. Nous, on a vocation à aider tous les producteurs. Donc là, les producteurs de fruits et légumes nous ont appelés en disant on est les plus impactés par les importations.
Oui. Hein, il y a un chiffre récent. Attends, on va rappeler. Voilà, 71% des fruits consommés en France sont importés. Voilà,
c'est complètement dingue. Au moment où, rappelons-nous quand même, nous consommateurs, on est dans un contexte où ces producteurs à nos portes en fruits et légumes, il faut peut-être les protéger, il faut faire en sorte qu'ils puissent continuer longtemps à nous amener ces fruits et légumes. Le contexte géopolitique est quand même pas très heureux en ce moment. On a un double intérêt en les protégeant. On protège aussi un destin qui est commun. Comment on fait pour concrètement les aider ? Et voilà, merci en tout cas de nous permettre de le dire. Il y a trois initiatives qui demain vont être présentées au Forum Végétable. C'est un forum qui rassemble tous les acteurs du monde agricole, du fruits et légumes, agricole. Voilà. La première des choses, c'est ça. Voilà, on l'a créé, nous les consommateurs. Cette étiquette, elle permet à un producteur, et il est le seul à être habilité à le faire, de mettre sur son produit, quand il est payé au juste prix, je rémunère au juste prix mon producteur. Seul le producteur peut apposer cette étiquette. On la trouve sur un produit, on est sûr que, évidemment, à l'autre bout,
est-ce
il est rémunéré.
Ça va marcher parce que lorsqu'on voit que le Made in France, on voit tous les abus sur l'étiquette Made in France, qui va contrôler le fait de...
Merci, très bon point. Ce sont les consommateurs qui contrôlent. C'est-à-dire que c'est pas simplement une étiquette comme un nouveau label qui arrive. On l'a fait récemment, on était chez Laurent Hulot, producteur d'asperges. Nous, consommateurs locaux, pas seulement ceux de l'équipe, on est allé le voir en disant: est-ce que tu as les centimes lorsque tu apposes l'étiquette ? Oui. Où est distribué le produit ? Carrefour Mérignac. Ok, on est allé dans le Carrefour. On a regardé d'ailleurs un prix en rayon qui n'était pas exagéré. Et parce qu'on était là un peu en sentinelle pour lui, on a un produit qui le rémunère et qui nous permet d'accéder à des produits de qualité sans qu'ils soient à des prix fous. Voilà. Donc c'était très concret. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, lorsque vous rémunérez au juste prix des producteurs,
des
vous avez
cette initiative. Pas mais...
Voilà, fraises françaises. Mmh. C'est une initiative qui s'appelle Gustatif et solidaire. 109 producteurs rassemblés depuis 9 ans. Alors, c'est pas c'est qui le patron, mais il faut parler de toutes les initiatives qu'aident les producteurs. Cette initiative, c'est tu fais un bon produit, tu fais de la fraise cueillie à maturité, tu fais de la qualité. En échange, on te donne l'argent nécessaire à faire cette qualité.
Mais alors, c'est quoi l'argent nécessaire? Pardonnez-moi un instant. C'est quoi l'argent nécessaire?
Ah ben c'est un point que nous on a éclairé en tant que consommateur. On le sait sur le lait, 4 euros par an, voilà. Et vous sauvez des producteurs de lait. Ouais. Sur un œuf bio, 6 centimes de plus. Pour qu'un producteur de bio s'en sorte. Pour des produits comme ceux-là, des fraises, pour que ce soit de la cueille à maturité, du français, du très bon, on est entre 15 et 20% de plus que des fraises qui souvent ne sont absolument pas gustatives et sont très décevantes. Mais vous avez, et c'est la troisième initiative, une occasion de goûter à des fruits français de qualité et moins cher. Ça s'appelle les gueules cassées.
Oui, les gueules cassées, voilà. On en parle souvent. Parce que alors, si la carotte n'est pas absolument la forme qu'il faut, si les asperges, là, vous montrez-nous, parce que vous montrez les asperges pour ceux qui nous regardent à la télévision,
ouais,
ils sont un tout petit peu, la tête est un tout petit peu râpée.
J'essaie de ne pas bouger.
Donc on les jette normalement.
Voilà, vous avez ici des asperges gueules cassées, rappelons-le, sont des fruits et légumes avec des petits défauts d'aspect. Là, elles sont déclassées, souvent pas vendues ou mal vendues, parce qu'il y a des petits départs, vous savez. On le voit à peine, et pourtant, ça les déclasse. Elles sont aussi bonnes que leurs grandes sœurs. Elles peuvent être vendues moins chères, c'est le cas. Et le producteur, et c'est très nouveau, là, on va annoncer un lancement national au niveau des gueules cassées. Il faut que le producteur gagne sa vie. Il faut arrêter. Il y a parfois des initiatives qui se disent, on est dans l'anti-gaspi, on paye mal les producteurs.
Les gueules cassées, c'est pas la première fois. Il y a eu, justement, la grande distribution avait lancé, je sais plus qui, on va pas faire de leur pub, mais voilà, des carottes un peu tordues, des légumes un peu tordus, etc. Puis en fait, on s'est rendu compte que les Français l'achetaient pas.
Mais les Français achetaient en grande quantité, c'est qu'ils n'ont pas réussi à en trouver assez. Hein, c'était Intermarché à l'époque. Mais regardez pourquoi ça ne marche pas. Si c'est un coup de communication, ça ne marche pas.
Si c'est
durable, vous avez quand même la possibilité d'avoir des producteurs. Regardez quand même ce qu'est un kiwi gueule cassée. Alors ça, moi, je l'ouvre aujourd'hui devant vous. Là. Regardez. Voilà ce qu'est un kiwi gueule cassée. Voilà un produit qui ne serait pas vendu ou mal vendu s'il n'était pas présenté.
Parce qu'il est un peu aplati.
Un peu aplati. Tout aussi bon que son grand frère kiwi traditionnel, il est vendu moins cher. Et surtout, on rémunère à chaque fois dans cette démarche au juste prix le producteur. On a tout à gagner à rendre tout transparent. Ces trois initiatives, on espère que ça va aider beaucoup de producteurs en France. Et rappelons qu'elles sont toutes portées par nous, les consommateurs. En quelques jours...
C'est ça. Il y a quand même c'est qui le patron ? C'est vous.
La coopérative.
C'est une coopérative que vous incarnez très bien, Nicolas Chaban. Et vous défendez ça très bien. Donc, il y a des consommateurs et puis il y a aussi les... pas des électeurs, mais enfin des gens qui...
Des ambassadeurs. Voilà, des sociétaires, ambassadeurs.
Ambassadeurs, oui. Je cherchais le terme.
En un mot, on va peut-être arriver à l'égalisme 4. Ça ne marche pas, toutes ces dispositions, parce qu'il n'y a pas le consommateur qui est le seul acteur, je l'ai souvent dit ici, qui est capable de dire à un moment donné à un distributeur, à un fabricant, c'est avec notre argent que vous organisez tout ce magnifique, cette vie économique. Ramenez les centimes à des gens essentiels pour nous. 100 000 producteurs par an, 100 000 producteurs ont disparu en 10 ans.
Alors,
on fait quoi dans ce contexte? Est-ce qu'à un moment donné, on ne protège pas des gens qui nourrissent les autres? C'est ça, en fait, les enjeux actuels.
Vous avez un sondage qui est très intéressant, qui montre que 78% des Français se disent inquiets par rapport à la qualité, au problème d'autosuffisance, donc la souveraineté agricole, et la qualité de la nourriture. Et 6% des Français seulement font tout à fait confiance aux marques. En même temps, moi, j'ai une question. Et je voudrais, dans un instant, vous faire écouter Dominique Schellcher, qui était ce matin chez Apolline de Malherbe sur BFM TV. Vous, par exemple, cette barquette de fraises, combien est-elle vendue?
Alors, en fait, elle venait d'arriver dans le magasin, j'ai demandé, on n'a pas le prix, donc hélas, je le communiquerai peut-être sur les réseaux sociaux. Le directeur m'a dit, elles arrivent. Ce matin, d'ailleurs, c'est le magasin Leclerc à Massy, on leur fait un peu de pub, parce que c'est très courageux de mettre des produits qui aident les producteurs français en ce moment. Et j'ai pas le prix. Ben c'est courageux parce que généralement, quand vous avez des produits en légumes, si des produits en rayon ou des fruits, moins ils sont chers, plus vous avez l'impression que vous allez avoir un signal concurrentiel par rapport.
Quand même, la barquette là de gauche, là, la plus petite, c'était, vous m'avez dit ça il y a quelques jours, c'était 6,90€, ce qui est quand même
assez cher.
Alors, c'est 500 grammes, c'est 6,90 €.
Oui.
Rappelons qu'on est en début de saison, c'est-à-dire que la même barquette, vous la trouverez deux fois moins chère dans quelques semaines. C'est une histoire de début de saison. Mais encore une fois, c'est peut-être pas tous les jours, mais de temps en temps. Payer un produit à un producteur au juste prix, rappelons que c'est une façon de les préserver et de faire en sorte qu'ils soient là dans quelques années encore près de chez nous. Et franchement, entre ça et une fraise venue, pardon, mais d'Espagne ou du Maroc, il n'y a pas photo. Au niveau du goût, un fruit, c'est quand même un plaisir. Il faut arriver à se dire que c'est pas plus cher. C'est le juste prix d'un produit présenté par un producteur français. Il faut qu'on recrée cette autre perspective.
Il faut changer la musique, en fait. Mais Nicolas Chaban, je vais vous faire donc écouter Dominique Schelcher, vous le connaissez, Système U, souvent il joue cette carte de Made in France et des agriculteurs, des éleveurs qui sont près de leur magasin. Écoutez Dominique Schelcher.
En France, en moyenne, le prix moyen acheté d'un article, c'est 2,85 €. La dernière tendance des panélistes que j'ai encore vu hier, les produits de plus de 3 € sont en baisse de volume aussi. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'on bloque. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de plafond dans
Exactement.
La consommation.
Il y a un plafond dans la consommation.
Qui s'est établi autour de 3 €.
Exactement. Et il y a moins de volume parce qu'il y a une grande partie de Français qui ne s'en sort pas avec cette inflation. Faut le rappeler, faut le dire, faut l'avoir
Vous
en tête.
Voilà. Qu'est-ce que vous lui répondez, Nicolas Chaban ? Il a tort ? Mais en
non,
même temps, non, il n'a pas
non.
tort.
Il n'a pas tort, c'est un constat, une réalité. Mais ce qu'il sait aussi, c'est que lorsqu'un produit ne présente pas d'intérêt particulier, on va refaire le calcul très concret. J'ai 3 produits qui s'appellent de la fraise, du lait. Tout est à peu près au même prix, mais il y en a un moins cher. On achète le moins cher. Il n'y a aucune raison d'aller acheter un produit plus cher. Nous, on a prouvé, côté consommateur, avec la coopérative, avec le lait. Le lait est arrivé, il était 30 centimes plus cher. On nous a dit, mais personne ne l'achètera, puisque le contexte est difficile. C'est devenu le lait le plus vendu en France. Et là, on a eu des chiffres absolument incroyables. Et merci à tout le monde pour les producteurs. Le rayon baisse avec l'inflation, le rayon du lait. Et là, la semaine dernière, on a eu un constat sur la première année. On est à plus 31% sur une brique de lait solidaire. Pourquoi ? Parce que si on est sûr que les centimes vont au bon endroit, il faut être sûr que les centimes du produit un peu plus cher profitent à un producteur. Donc il a raison quand il n'y a pas de raison d'acheter plus cher ou un peu plus cher, on achète moins cher. Maintenant, la preuve est faite qu'il y a un enjeu qui est capital. Si on n'achète pas à nos producteurs français autour de chez nous, mais qu'est-ce qui va se passer ? La nourriture du bout du monde, c'est une angoisse absolue pour tout le monde. La nourriture qui va venir de Nouvelle-Zélande, 20 000 km de bateau, est-ce qu'on est sûr qu'elle va arriver jusqu'à nous ? Est-ce qu'à un moment donné, elle ne va pas se retrouver dans un autre pays ? Il faut qu'on protège cette nourriture qui, chaque jour, nous nourrit et nourrit nos enfants. C'est vraiment un élément clé. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il ne faut pas être agressé par un prix sur un fruit français. Il faut se dire, c'est le juste prix d'une nourriture à nos portes. Si on ne voit pas les choses ainsi, on va finalement les mettre en grande difficulté et nous mettre en grande difficulté.
Oui, parce que c'est ce mot-là, encore une fois, c'est le juste prix, comme vous dites. Il faut quand même qu'on vérifie que ça soit le juste prix, parce que au nom de la solidarité, il peut y avoir des abus aussi. Vous connaissez la nature humaine tout aussi bien que moi.
Bien sûr, et ça, c'est un point clé.
C'est vous qui
allez vérifier. Merci de le signaler. Quand on est allé voir les asperges gustatifs et solidaires de Laurent Hulot dans le Médoc, c'est très concret. On a pu vérifier qu'il gagnait sa vie lorsqu'il vendait le produit à un magasin. Mais vous savez, le bonus extraordinaire, quand on est allé dans ce magasin Carrefour près de chez lui, on a pu constater, j'ai fait une petite vidéo où on a joué le jeu de pas savoir, on a vu que ces asperges, c'était des asperges, elles n'ont pas été multipliées par 3 par le magasin. Ouais. Puisque si nous, consommateurs, on est dans l'histoire, on protège le producteur, mais le magasin, indirectement, va pas nous faire un prix totalement excessif. Donc il y a un intérêt à se réintéresser aux coulisses de notre alimentation et des prix aux producteurs.
Lorsque vous étiez venu, là, c'était il y a un mois, en fait, hein, Nicolas Chaban, c'était à l'occasion des émeutes, enfin voilà, du soulèvement agricole qui avait lieu, notamment à cause de l'Europe, mais pas que, aussi le fait qu'ils s'en sortaient pas. Est-ce que vous estimez quand même que les mesures, notamment de simplification, les 140 mesures que demandait la FNSEA, etc., etc., est-ce que ça a marché ? Est-ce qu'il se passe quelque chose ?
Alors, ils le disent eux-mêmes, on essaie toujours, nous, d'être plutôt positifs et bienveillants, mais force est de constater quand même que quand tu es producteur et que tu as arrêté ta vie agricole, tu es parti sur les autoroutes, tu as bloqué le pays, c'était pas un caprice, c'est pour arriver à survivre.
Oui.
Aujourd'hui, les mesures, on en voit quelques-unes frémir et peut-être se mettre en place, mais il y a une chose que tous les producteurs nous disent, c'est quel horizon on a sur la notion de mieux gagner notre vie. quelle mesure est en train d'arriver qui va nous permettre de nous dire que nos 70 heures par semaine, elles vont être payées au juste prix.
Au moins, la PAC a été versée, non ?
Alors après, il y a ces retards qui peut-être ont été accélérés, mais c'est pas une aide administrative qui est demandée. C'est une aide fondatrice, fondamentale, viscérale. Être payé au juste prix de ses efforts.
Donc le gouvernement a fait de la com.
Alors, ils ont peut-être de très bonnes intentions, bien sûr, mais côté producteur, quand tu es à sec en trésorerie, tu n'as plus le moyen de nourrir ta propre famille. Il y a beaucoup de familles en difficulté. Tu ne peux pas attendre. Tu n'as plus le temps de l'administration. Tu te dis, à quel moment on me paye bien. Donc, c'est pour ça que nous, consommateurs, à notre niveau, on s'est dit, on se mobilise. Et merci à tous ceux qui, partout en France, disent, je suis prêt à aller près de mon producteur, le voir, et devenir un peu, effectivement, une sentinelle, un garant, un tuteur. Si moi, consommateur d'un magasin, on se retrouve 10 près d'un producteur de fraises, on peut dire au magasin, quand vous aidez le producteur que je connais, j'achète le produit et je viendrai chez vous. On a un pouvoir énorme en tant que consommateur et il faut qu'on en profite.
Et la grande distribution, je vous ai posé la question tout à l'heure, est-ce qu'ils jouent tous le jeu ou il y en a un qui joue plus les jeux que l'autre ?
Alors aujourd'hui, tous les distributeurs...
Vous avez cité Carrefour,
au niveau de Cécile Patron, aide la démarche. Mais comme pour Cécile Patron, merci à Carrefour, en une heure. Et c'est courageux parce que quand les consommateurs viennent, rentrent dans les rayons, rentrent dans les prix, il y a des distributeurs qui peut-être auraient été moins aptes à le faire rapidement. Carrefour a dit oui en une heure. Ça, c'est demain et prochainement dans tous les rayons Carrefour. Et depuis, il y a beaucoup d'autres démarches et distributeurs. Vous avez aussi Leclerc, on parle de Leclerc. Eh bien, il faut savoir que Leclerc, c'est un des plus grands contributeurs, notamment chez Cécile Patron, du soutien à la démarche et donc aux producteurs. On pourrait imaginer qu'il y a simplement des produits les moins chers chez Leclerc qui se vendent. C'est pas vrai. La progression de ces produits solidaires chez eux est absolument inattendue. Et ce sont des chiffres qu'on a publiés récemment, assez incroyables.
Ouais. Est-ce que cette donc loi Egalim 4, hop, vous l'évacuez, on n'en a pas besoin. La loi d'orientation agricole qui devait être, du reste, présentée demain, qui finalement a encore été repoussée, ça sera au Conseil des ministres le 3 avril. On va parler de démographie, de transition, parce que là aussi, il y a un vrai problème de transmission des exploitations. Ouais. Et puis, il y a cette question toujours de savoir si de la souveraineté agricole. Ça a un sens pour vous, la souveraineté agricole ?
Oh, ça a plus qu'un sens.
C'est pas un peu un mythe ? Est-ce qu'on ne se fait pas plaisir ?
Non,
c'est bien d'avoir le week-end de Pâques, d'avoir des agneaux qui viennent de Nouvelle-Zélande. C'est pas mal aussi.
Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que au-delà de tout ce qu'on pourrait réfléchir, l'agneau de Nouvelle-Zélande, demain, les œufs, le lait, vous imaginez le jour où en France on va se réveiller, et franchement, c'est en train d'arriver.
Je crois qu'on s'est réveillé, oui.
En se disant, on se nourrit tous les jours, il y a une famille de gens en France qui nourrit les autres, ça s'appelle les agriculteurs. Et on a oublié de les protéger. Récemment, j'étais avec des jeunes enfants, j'ai essayé de leur expliquer. S'il y avait un peuple qui venait sur Terre et qui découvre qu'une famille de gens, les agriculteurs, nourrissent tous les autres qui ont besoin chaque jour d'être nourris, est-ce qu'on pourrait imaginer que ce soit la famille la moins protégée de ce pays ? On est dans une aberration, mais en urgence, il faut qu'on fasse quelque chose. Pourquoi ? C'est pas simplement parce qu'ils méritent de vivre de leur métier, les producteurs. Parce que s'ils ne sont plus là pour nous nourrir, le fameux agneau de Nouvelle-Zélande, quand il va être acheté à mi-chemin par un autre pays qui ne l'aura plus jusqu'à nous, on va regretter énormément de ne pas avoir protégé ces producteurs locaux. Donc c'est maintenant qu'il faut agir, et parce que les politiques ont peut-être un peu de mal ou de difficulté à le faire rapidement et concrètement, nous, consommateurs, on se mobilise.
Oui, c'est ça. Donc ils n'ont rien fait, donc c'est vous qui le faites. Bref, c'est ça. Ministre de l'Agriculture bis, on va vous appeler comme ça, hein, Nicolas Chaban. Merci, vous nous tenez au courant, surtout. Et ça, c'est quand dans les magasins
ça y est, ça arrive dans les rayons. Et demain, encore une fois, jeudi, on sensibilise tout le secteur des fruits et légumes pour que des producteurs soient aidés en urgence partout en France.
Merci.
Merci
beaucoup. Nicolas Chaban, c'est qui le patron, donc avec les fruits et légumes français, l'étiquette solidaire, et puis les gueules cassées aussi avec l'étiquette solidaire. Merci beaucoup.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h34, c'est reparti en direct jusqu'à 20h. Good evening business. Audrey Tcherkov nous a rejoint. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous.
Et tous nos experts sont là. Pauline Tadevin est là. Bonsoir Pauline. Emmanuel Lechy, bonsoir Emmanuel, qui se rengorge.
Avec une jolie cravate.
Mais je suis content que vous l'ayez remarqué.
Voilà. On remarque tous les soirs.
Cravate vintage, 1995.
Ah bah dites donc. Thomas Asportas, bonsoir Thomas.
Rebonsoir.
Et Edwige Chevrillon, rebonsoir Edwige.
Rebonsoir.
Pour dire un mot, alors pardon, on va s'offrir quelques secondes de douceur, parce que les sujets d'après ne seront pas forcément très fleur bleue, pour parler de ce que nous a dit Nicolas Chaban. Alors, c'était le beurre, c'était le lait, désormais ce sont les fraises
Les fruits et légumes.
Oui, il y avait des on a vu passer
des asperges. Et des asperges, des gueules cassées, comme ils disent. C'est-à-dire, c'est vraiment. Et des kiwis aussi. C'est-à-dire, ils sont un tout petit peu aplatis. Donc, normalement, ils sont bons pour la poubelle, alors qu'en fait, ils restent très bien. Et puis, c'est à des prix déclassés, entre guillemets. C'est tout à fait. Enfin, je trouve c'est une initiative qu'il va lancer. Il faut quand même rappeler que c'est qui le patron derrière lui. Il a 16 millions de consommateurs. Oui. Il a 14 000 ambassadeurs qui vérifient. Et puis, surtout, il y a cette fameuse étiquette solidaire. Si je rappelle ça, c'est qu'en fait, je lui disais. Attendez, vous avez écouté ce qu'a dit ce matin Dominique Schulcher. Il y a une barre psychologique, c'est 2,87 euros. Okay. Et au-delà de 3 euros, ben, les Français n'achètent plus. Donc je dis, vos fraises, elles sont excellentes, franchement, elles sont délicieuses, mais elles sont un peu plus chères, hein, parce que la barquette de 500, alors c'est tout le début, était à 6,90 euros. Il disait, oui, mais les Français, on est d'accord, ils ont tous un problème de pouvoir d'achat dans la grande distribution. Mais dès lors qu'on leur dit... c'est solidaire, ça permet à un éleveur ou un producteur de se rémunérer au juste prix. Et bien là, le Français, il se sent motivé. Et il a donné les chiffres sur le lait, qui était au départ il était à 30 centimes plus cher, mais maintenant est devenu un peu plus... il est plus cher, mais pas à 30 centimes. Il disait là, on a fait plus 31%.
Mais ça s'est vu, oui. je l'avais déjà dit sur ce plateau, oui. Dans les rayons des supermarchés ces dernières semaines, notamment dans les tout premiers jours où on a commencé à reparler de se rémunérer au juste prix, son lait, tout était vide. Et les gens venaient les chercher, en fait. Donc, il y a effectivement...
C'est la marque de lait la plus vendue en France, aujourd'hui.
Oui, absolument. C'est pour ça qu'il lance ça demain. Ouais. Il est venu nous présenter ça en avant-première. Et je pense que ça peut marcher, du moins espérons, parce que 71% des fruits sont importés
en France. C'est incroyable. Oui, c'est énorme. C'est certain qu'on a perdu en souveraineté. Mais ceci dit, donc, ce qu'on voit et ce qu'on comprend, c'est que les Français sont prêts à payer un peu plus cher pour acheter français. Mais à partir du moment où ça ne dépasse plus de 3 euros.
Lui dit, je ne pense pas. D'abord, les fraises, le prix des lait, c'est les toutes premières, donc ça, évidemment, ça va baisser.
Ouais.
Et puis surtout, c'est que dès qu'il y a cette fameuse étiquette qui va être apposée sur tous ces produits-là, où on dira, ça rémunère à son juste prix le producteur. Alors, et lui, il fait le pari que les Français vont jouer le jeu.
Emmanuel.
Non, mais il y a plusieurs choses intéressantes. La première, c'est que c'est vrai que ça finit par être agaçant d'entendre toujours. Les Français. Non, sur tous les marchés, vous avez toujours besoin d'avoir des gammes diversifiées et des niveaux de prix différents. Et même quand vous allez dans la grande distribution, au sein des hypermarchés, vous avez besoin d'avoir des produits de qualité différente. Alors oui, il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement que d'acheter les premiers prix. Et là,
les grandes marques sont en recul. Hein,
effectivement, il y a aussi un autre aspect qu'il faut voir, c'est que dans tous ces produits qu'on a achetés pas cher, qui venaient de l'étranger, etc., il y a un moment où il faut bien reconnaître que beaucoup ne sont pas très bons. On a tous acheté des fraises pas bonnes, des tomates sans goût, etc. Et il y a un moment où, quel que soit le prix, ces produits-là sont toujours trop chers. Toujours trop chers quand c'est mauvais.
Bienvenue à Paris.
Et donc, effectivement, la réalité, c'est que beaucoup de consommateurs sont prêts sans doute. On a goûté avec Edwige ces fraises. Non mais je veux dire, c'est un pur bonheur. Je sais pas, est-ce que vous vous souvenez dans le film Ratatouille, quand l'acariâtre critique gastronomique goûte une ratatouille qui lui met les larmes aux yeux parce que ça lui rappelle son enfance.
C'est ce que ça vous a
fait. J'ai goûté ces fraises là, ça vous met le frisson, ça vaut bien quelques euros de plus la barquette une fois par semaine. Vous voyez, pour les fraises de dimanche.
Voilà, parce qu'on finit sur les
alors que les lois Egalim ne prennent pas en compte les fruits et légumes, c'est ça qui est complètement.
Alors pas encore.
Pour terminer, quel génie
marketing. C'est-à-dire qu'à l'heure où tout le monde s'interroge, s'arrache les cheveux pour trouver des étiquettes qui donnent du sens, du machin, du truc, lui, il a quand même trouvé la formule magique. Et ça, c'est quand même chapeau bas.
Voilà, c'est qui le patron qui se lance dans les fraises, dans les fruits et légumes, d'une manière générale. À part ça.
Alors, à part ça, on va rentrer dans le dur. Gabriel Attal est attendu à 20h ce soir sur TF1, donc après un séminaire gouvernemental, un séminaire de travail précisément sur le travail, pour faire de nouvelles annonces, or très probablement autour de l'assurance chômage. Rien n'a filtré, Thomas Asportas, je vais quand même vous demander de sortir une boule de cristal. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre?
Non, mais déjà, on allait voir sur son compte Twitter. Il s'est un peu exprimé dessus. Il a expliqué et annoncé, déjà, un, sa volonté très ferme de se positionner sur le dossier. Et deux, qu'il annoncerait ce soir les leviers, donc en gros les mesures, et le calendrier. Donc on aura des annonces ce soir. On ne va pas rester dans les déclarations d'intention. Maintenant, effectivement, si on résume les options qui s'offrent à Gabriel Attal, il y en a trois. La plus probable, parce que c'est celle qui revient avec le plus d'insistance, et notamment dans la bouche de Bruno Le Maire, c'est de réduire la durée d'indemnisation. Pas de réduire le montant des indemnisations, mais la durée. Aujourd'hui, elle est en moyenne de 18 mois dans le régime général.
On l'avait réduite déjà.
On l'avait déjà réduite, effectivement. Mais là, c'est le nouveau tour de vis. Ça pourrait passer à 12. On verra quel chiffre est retenu si c'est cette piste. L'autre option, qui elle aussi revient avec insistance dans la bouche de Bruno Le Maire, c'est de réduire la durée d'indemnisation des seniors. Alors peut-être que ce sera que les seniors. Aujourd'hui, les plus de 55 ans, c'est 27 mois. Si on revient sur le régime général, on repasserait à 18. Et la dernière option, c'est de durcir. Ça aussi, ça a déjà été fait. Donc, ce serait un nouveau cran. Les conditions d'éligibilité, les conditions pour avoir droit aux allocations. Aujourd'hui, il faut avoir travaillé au moins 6 mois dans les 24 écoulés. Oui. Ben là, il faudrait peut-être travailler plus que 6 mois sur les 24 écoulés pour avoir droit aux allocations.
Ça ne fera jamais que la troisième réforme de l'assurance chômage en autant d'années, quasiment 3-4 ans.
Depuis 2019.
Depuis 2019. Bon, voilà. L'éternelle question, Emmanuel, est-ce qu'on va gratter des milliards? Est-ce qu'on remet vraiment beaucoup de Français au travail? Ou alors est-ce que c'est purement cosmétique?
Mais ça ferait 3 milliards d'économies.
3 milliards d'économies, oui.
C'est toujours ça à prendre.
Ça de prix, quoi.
Alors, et structurel, pour le coup.
Alors, pour le coup, si on essaie de synthétiser ce que dit la littérature économique sur le sujet, qui est pas très clair, parce que c'est toujours compliqué d'avoir des cas comparables à travers les pays, etc. Globalement, il y a quand même une corrélation entre la durée d'indemnisation du chômage et la durée du chômage. Donc, c'est clair que quand on touche sur la durée d'indemnisation du chômage, on touche aussi sur, la durée du chômage. Donc, si, effectivement, on réduit la durée d'indemnisation du chômage, il est probable qu'on va remettre des gens sur le marché du travail. Ça, c'est ce qu'on observe. En revanche, la littérature est beaucoup moins tranchée sur le niveau des allocations chômage. C'est-à-dire que là, c'est assez compliqué d'avoir des résultats assez clairs qui montrent que, par exemple, quand vous réduisez drastiquement les allocations chômage, les gens reprennent massivement un emploi.
Oui, avec des études qui s'opposent sur le sujet.
Qui s'opposent sur le sujet, et même des études qui vous disent, et ça aussi, ça fait partie de ce qu'il faut mettre sur la table, qui rappelle que rechercher du travail, ça a un coût, et que bien indemniser le chômage, c'est aussi permettre de retrouver plus facilement du travail. Je me rappelle d'un travail qu'avait fait Javier Ortega pour l'école d'économie de Toulouse il y a quelques années, qui montrait ça effectivement. Donc sur la durée d'indemnisation, oui, ça peut effectivement avoir un petit impact sur le chômage. Sur le montant de l'indemnisation,
c'est moins sûr. Pour les seniors, ça n'a pas été démontré, par contre.
Non, ça n'a pas été démontré. Et puis il faut quand même rappeler quelque chose aussi, c'est que on a apparemment au gouvernement cette idée qu'il faut harmoniser les conditions d'indemnisation des seniors avec celles du reste de la population. Or, quand vous regardez finalement dans les pays autour de nous, vous vous rendez compte qu'il y a toujours quand même un dispositif un peu plus favorable pour les seniors. Prenez l'Allemagne, prenez la plupart des pays qui entourent la France, il y a toujours quand même un dispositif un peu plus généreux pour les seniors, ce qui n'est pas forcément le cas dans les pays.
On ne paye pas question de toucher au montant de l'indemnisation. Il n'y a pas de sujet là-dessus, Thomas, a priori.
Mais rien n'est exclu. Ce n'est pas la piste qui tient la corde. Mais après,
il l'aurait peut-être à plusieurs reprises. Ce serait quand même une grande surprise.
Oui, ce serait une surprise.
Surtout, si je me demande si on ne prend pas aussi le problème un peu par le mauvais bout. Je m'explique. En France, on voit bien qu'il y a un problème entre les 50. Enfin, ça va mieux entre les 50 et les 55 ans. 55-60, 60-65 ans. C'est là où ça ne va pas. C'est un problème aussi de mentalité dans les entreprises, de recrutement.
C'est un problème culturel.
C'est un problème culturel. Donc, est-ce qu'il ne faut pas, avant de taper sur les seniors qui sont au chômage, est-ce qu'il ne faut pas essayer de trouver, on a parlé de contrat senior, d'inciter les entreprises,
bonus malus,
à embaucher ou à garder aussi les seniors, parce que c'est la chose que ne fait pas l'État, parce que vous regardez là, il y a pas mal de patrons qui sont virés parce qu'ils ont dépassé les 65 ans ou les 60 ans.
De la même manière qu'on a dû passer par des quotas justement pour arriver à la parité, donc, peut-être que sur le sujet des seniors, il faudrait faire pareil.
C'est ça que je trouve un petit peu paradoxal dans ce débat-là, parce que c'est demander aux chefs d'entreprise, discuter avec eux, et pour changer la culture.
Oui, c'est
parce
vrai.
Que notre culture, elle est très différente des autres.
Mais donc, on sent bien que derrière tout ça, l'objectif, c'est d'atteindre ce fameux plein emploi, de mettre la gomme sur l'incitation à la reprise de l'emploi, faire en sorte que le travail paye plus que l'assistanat, entre guillemets. Est-ce que ça veut dire qu'on peut s'attendre aussi à ce que la réforme, quand même contestée sur le RSA, revienne sur le tapis ce soir ?
Ah ben non, mais là, pour le coup, le gouvernement avait abattu ses cartes. Oui, c'est-à-dire que c'est expérimenté dans 16 départements, ça a donné satisfaction, ça va être généralisé. Donc, peut-être que le Premier ministre va le répéter ce soir, mais il a dit dans son discours de politique générale, à partir à compter de l'année prochaine, ou peut-être même dès la rentrée, d'ailleurs,
sur l'ensemble du territoire français.
Sur l'ensemble du territoire, Bon. Sur le modèle du contrat d'engagement jeune, c'est la même logique, hein, de l'accompagnement en échange d'un certain nombre d'heures d'activité, et le gouvernement a jugé que c'était plutôt concluant.
Bon, il n'y a pas encore d'annonce, mais il y a des bruits, comme on dit, plus que des bruits. Écoutez, Sophie Binet, ce matin, secrétaire générale de la CGT, qui dit de toute façon, une nouvelle réforme de l'assurance chômage, c'est absolument pas le moment. Écoutez.
Il y a déjà eu 4 réformes violentes qui ont été imposées ces dernières années et aujourd'hui c'est seulement 35% des personnes qui sont inscrites à Pôle emploi qui sont indemnisées et c'est 40% des personnes indemnisées qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc on voit que aujourd'hui, contrairement à l'image qui est entretenue sur ces chômeurs qui abuseraient, ça n'est pas du tout le cas. Il y a des réformes violentes qui ont été imposées et en plus là le taux de chômage remonte. Donc quand le taux de chômage remonte, il faudrait au contraire augmenter les protections pour les personnes privées d'emploi.
Thomas Asmortas.
Alors là, oui, juste pour peut-être pour boucler là-dessus, effectivement, et Elisabeth Borne elle-même l'a relevé, la logique du gouvernement, c'est d'adoucir les curseurs quand la courbe du chômage repart. Là, on voit qu'il y a un début de remontée de chômage. Donc là, le gouvernement tient
Pas. Oui, d'accord. Normalement, c'est une petite anticyclique.
Oui, absolument. Non, mais ceci dit, dire qu'il y a eu 4 réformes sur l'assurance chômage qui ont été violentes, on offre aujourd'hui, encore en France, des conditions qui sont beaucoup plus favorables et généreuses que les voisins européens.
Plus beaucoup.
Sur la durée, on est quand même toujours plus.
Non, si vous regardez. Si vous regardez. Alors l'OCDE a publié récemment aussi des travaux. Alors on est dans le peloton des pays les plus généreux, mais il n'y a pas d'écart majeur. Si vous prenez par exemple, je crois, le montant de l'indemnisation au bout d'un an, on doit être le 8e pays de l'OCDE. Donc il y a 7 pays avant nous.
Non, mais sans parler du montant, je parlais plutôt de la durée.
Sur les conditions même de, on est dans les 3-4 pays, mais c'est plus aussi marquant qu'avant. Il y a quand même eu beaucoup de d'uniformisation vers les normes européennes.
Bon, et puis au milieu de tout ça, Moody's, qu'on remercie pour sa contribution à nos bonnes œuvres, comme on dit. Moody's qui a lancé une petite phrase hier absolument terrible, tout à l'heure.
Oui.
Il est improbable, a dit ce matin Moody's, que la France arrive à ramener ses déficits à 2,7% du PIB d'ici 2027. Oui. Ce que Bruno Le Maire nous promettait hier encore, la main sur le cœur.
Mais ça, le patron...
Moody's qui publie sa note, qui réactualise éventuellement sa note sur la dette française dans un mois, c'est ça.
Alors, en fait, ils ont précisé que c'était pas du tout justement une actualisation de la note.
C'est pas la note aujourd'hui.
Voilà.
Non, mais ça plante un peu le décor quand même.
Oui, voilà. Thomas.
Non, mais les Moody's dit ça depuis autant de temps que nos ministres de l'économie disent qu'ils vont ramener le déficit à moins de 3% dans les 3 ans qui viennent. Voilà, donc on assiste quand même.
Ils disent ça au lendemain de la publication des chiffres de l'INSEE.
Puisqu'on a beaucoup parlé de cinéma depuis tout à l'heure, on a cité Ratatouille, on peut citer Un jour sans fin.
C'est-à-dire mais quelle culture cinématographique,
quelle référence.
C'est le même jour. C'est le même jour qui se répète. C'est le même jour qui se réveille le matin, il y a des déficits.
Il y a le film italien là, il reste encore demain.
Oui. Et ça se termine avec l'agence de notation qui dit on n'y croit pas.
Non mais c'est aussi ce que les experts du soir nous disent vous disent tous les soirs depuis un moment. Ceci dit, Thomas, comment est-ce qu'on peut croire en effet aux prévisions budgétaires du gouvernement et à son budget à partir du moment où elles sont construites sur des hypothèses qui sont beaucoup trop optimistes et à partir du moment où on a des recettes qui sont censées être
c'est ce que dit Moody's dans son avis
jamais vu.
Moody's, c'est la traduction anglaise de Cour des comptes. C'est-à-dire que mot pour mot, c'est la synthèse du rapport annuel de la Cour des comptes écrit en anglais. Comment on peut y croire ? Il y a un engagement politique fort, et donc ne pas le tenir, c'est un risque politique fort pour le président de la République. C'est-à-dire que vendredi encore, devant toute la communauté européenne, au sortir du Conseil européen, il dit on a deux ancres, le retour sous les 3% de déficit en 2027 et la stabilisation de la dette en 2026. Donc à partir du moment où il ne le fait pas, il prend son risque politique.
Et puis en 2024,
les prédécesseurs ne l'ont pas fait et ils n'en sont pas morts.
Oui, non, mais
c'est un risque politique. Je parle pas
d'un risque. Non, mais je veux dire, ils n'en sont pas morts politiquement.
Oui, en effet.
Et puis ce qu'ils disent aussi, c'est que 10 milliards, ce n'est pas suffisant. 10 milliards d'économies, il faudra en faire plus.
Qu'est-ce que vous en pensez, Edwige Escovitch ? C'est annonciateur d'une dégradation dans un mois de la note française ?
Je pense que de toute manière, c'est sûr que la situation française n'est pas brillante. Vous voyez, je ne m'engage pas, je suis comme Audi, je ne m'engage pas beaucoup en disant cela. Je pense que si peut-être ils vont peut-être, c'est pour ça qu'on a besoin de cette réforme de l'assurance chômage, parce que ça fait faire pas beaucoup d'économies. Thomas l'a rappelé, c'est 3 milliards.
Non, mais c'est un signal important, qui
est donné.
Ouais.
Voilà, ça fait un signal de plus qui est donné. Ouais. C'est vrai qu'il y a en fait, mais c'est des questions politiques et des questions de politique européenne, parce qu'il y a les élections européennes, donc ils en ont besoin. Sinon, en fait, c'est pas Moody's qui le, Moody's c'est pas déterminant.
Standard & Poor's, mais beaucoup plus.
C'est plus embêtant.
Oui,
beaucoup plus embêtant.
Mais, non, mais ceci dit juste, parce que Thomas Asportas parlait des objectifs 2026-2027, on peut aussi parler de l'objectif du gouvernement pour cette année, hein, 2024, de ramener le déficit à 4,4%.
Cette année,
ça voudrait dire réduire le déficit d'un point de pourcentage en un an, ce qui, encore une fois, serait du jamais vu.
Donc, non, la prochaine échéance, c'est le 17 avril où le gouvernement présentera son programme de stabilité, sa nouvelle trajectoire pluriannuelle de rétablissement des comptes publics, et on aura un nouveau chiffre à la place de 4,4, ça c'est sûr.
Bon, on va spéculer encore pendant de longues semaines d'ici le verdict de Moody's et Fitch, effectivement, le 26 avril prochain.
C'est mais à la fin, ça finit bien le jour sans fin. Hein.
Oui, mais à la fin,
ça finit pas, surtout.
Mais c'est long.
Vous vous souvenez plus de la fin.
Un jour, il passe au jour d'après.
Je vous apporterai le graphique qui est célèbre, qui est le graphique de toutes les trajectoires budgétaires promises par tous les gouvernements.
Oui.
Vous voyez, ça fait des vagues comme ça qui se succèdent où, année après année, on promet le retour.
Enfin, il y en a, là, on a un positif que d'autres, quand même.
Emmanuel, là, c'était quand même une première, d'avoir 5-5 en réalisation sur 2023. Je pense que par rapport à tel décalage par rapport à la prévision.
Mais vous êtes le premier à dire que les budgets sont faits pour être insincères.
Je dis qu'il faut être indulgent par rapport à la réalisation, par rapport à la prévision, parce qu'il y a toujours des imprévus, parce que la France est un pays qui aime jouer le psychodrame autour de sa prévision de croissance, alors que vous avez des pays comme les Pays-Bas, où le budget est construit sur une hypothèse de croissance constante, qui est la croissance moyenne de longue période. Si la croissance est supérieure, c'est tant mieux. Si elle est inférieure, c'est tant pis. Mais il n'y a pas ce psychodrame.
Vous parlez d'un pays qui a des finances publiques hyper saines.
Oui, mais je veux dire, il n'y a pas ce psychodrame autour de la prévision de croissance chaque année de laquelle on joue.
Parce que les chiffres sont beaucoup plus faciles à manier.
Quelques minutes pour donner la parole à Pauline Tadevin qui nous a écouté religieusement, qui était d'une patience.
Là aussi, il y a des déficits.
On peut le dire.
Oui.
Pour parler de ce qui est une grosse journée chez Casino, parce que alors ça doit être opérationnel officiel d'ici la fin de la journée.
C'était une grosse journée parce que
équipe nouvelle qui arrive chez Casino.
Dernier
voilà.
Conseil Pauline. D'administration de l'ancien, démission de Jean-Charles Naouri, nouveau conseil d'administration, nomination du comité exécutif. Tout ça devait se faire dans la journée d'ici ce soir, effectivement.
Oui.
Avec pour demain prévu une première visite de la nouvelle direction directement au siège social de Saint-Etienne. Ils ont prévu de prendre un train dès demain matin. Philippe Paladi, le nouveau directeur général, et sa garde rapprochée pour aller au siège historique de Saint-Etienne, rencontrer plusieurs centaines de salariés. Et ils feront ça la semaine prochaine dans les sièges de Franprix, de Monoprix et à Cdiscount à Bordeaux.
Et il faut rappeler l'étendue
des... Je pense que les nombres d'inscrits... l'assurance chômage, ça va augmenter.
Il va y avoir un gros plan social, plan social qui s'annonce conséquent, que ce nouveau directeur général, donc, qui prend ses fonctions aujourd'hui, veut faire le moins mal possible, dit-il, ou en tout cas le mieux possible. Mais effectivement,
enfin, on a quelques chiffres qui sont sortis.
Rien
on va tomber à 28 000 salariés.
De Saint-Etienne, donc il y a 1800 salariés, 1005 si on enlève les CDD. Et d'après nos informations, qui confirment celles de nos confrères de la lettre A, il y a 1000 à 1200 personnes. Qui pourrait partir rien que sur ce siège de Saint-Etienne. Donc oui, effectivement, là, c'est un plan social 500, qui s'annonce conséquent, mais il faut savoir que dans ce siège de Saint-Etienne travaillaient jusque-là 80% des salariés, travaillaient pour les hyper et les supermarchés qui ont été vendus
c'est
et
sûr.
Cédés à la concurrence. Sûr. Voilà, donc maintenant, tout l'enjeu de cette nouvelle direction est de réfléchir comment faire pour préserver au maximum l'emploi à Saint-Etienne. Hein, c'est le premier employeur privé local. On sait que Bercy suit le dossier de très très près. Les repreneurs se sont engagés à préserver ce siège social sans garantir un nombre d'emplois.
Sans s'engager sur un chiffre.
Sans s'engager sur un chiffre de l'emploi. En tout cas, ils ont dit qu'ils allaient le préserver. Alors, on a aussi des pistes qui se dégagent, d'après nos informations. Une des pistes est de rapatrier à Saint-Etienne une partie des dossiers qui étaient gérés jusqu'ici, justement au siège de Franprix et de Monoprix en région parisienne, et de rapatrier ces dossiers au siège de Saint-Etienne pour maintenir en quelque sorte l'emploi. Le plan social, il sera annoncé par la direction dans 15 jours, mi-avril. D'ici 15 jours, mi-avril. Donc, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel qui a été annoncé. C'est ce que nous dit Bercy, d'ailleurs, qu'on a contacté. Attendons de voir ce qui va être annoncé vraiment, et les chiffres qui vont être donnés, que les syndicats attendent beaucoup, parce que ces syndicats, eux, ils craignent à l'échelle du groupe donc magasins, entrepôts compris, 6 000 emplois menacés.
6 000 emplois menacés. C'est énorme.
Et alors, sinon, c'était 50 000 emplois en France.
Oui, c'est ça.
Et ça sera 28 000, à peu près 28 000 après le plan social qu'il va falloir gérer.
Du coup, on attend les chiffres officiels, mais 30 000 à peu près, probablement.
Évidemment, ça va faire mal. Pauline, une fois que le volet social sera réglé, j'imagine que la priorité qui va suivre, ça va être de repositionner les enseignes de
proximité. D'ailleurs, ce qu'on nous dit dans l'entourage, ce que nous dit une source proche, c'est qu'il va y avoir le plan social et qu'en même temps, déjà, cette nouvelle direction va devoir s'atteler à sauver le groupe et à le redresser. Il va falloir faire les deux choses en même temps parce qu'il y a le feu là. La situation est très mauvaise et il faut éviter que ça empire. Donc ils ont déjà un plan stratégique sur lequel ils se sont mis à travailler. Ils veulent mutualiser certaines fonctions. Ils veulent faire plus de synergie entre les différentes enseignes. Ce que nous raconte pas mal l'Observateur, c'est que jusqu'ici, il pouvait y avoir des Franprix, des Monoprix, des petits casinos qui étaient en concurrence parce que tout se faisait en silo. Là, l'un des objectifs est de mutualiser, de réhumaniser, nous dit-on, de réinvestir dans les magasins, de réinvestir dans les hommes, 1,6 milliard d'investissements.
C'est plutôt positif.
Juste, évidemment, il faut qu'il fasse très vite sur le plan stratégique, parce que en fait, Casino est complètement vidé de sa substance avec tous les hypermarchés. Il reste les magasins de proximité, mais à partir de là, il faut quand même qu'il explique.
Dans lesquels il va falloir réinvestir beaucoup.
Il va falloir investir. On dit Monoprix 1,5 milliard. Enfin, je veux dire, il y a quand même des chiffres colossaux à investir. Or, pour l'instant, on a le sentiment qu'on ne connaît rien. On ne sait pas très bien comment ils vont s'y prendre.
En tout cas, effectivement, voilà, je vous ai donné à peu près les premières pistes du plan stratégique. Oui. C'est à quoi ils veulent s'atteler, en disant qu'effectivement, il va falloir faire, ils n'auront pas d'autre choix que de faire et le plan social et en même temps déjà de relancer le groupe.
Et vous parlez de passation de pouvoir. Une nouvelle équipe arrive. Jean-Charles Naouri s'en va dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures. Vous savez qu'il a envoyé une lettre hier à l'ensemble des salariés. Écoutez, réaction ce matin à Didier Marion, qui est porte-parole de l'intersyndicale, qui a quand même des mots très 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 rudes à l'encontre de Jean-Charles Naouri. Écoutez.
On l'a reçu comme tous les salariés l'ont reçu, un peu comme un affront et un dégoût, un déni. C'est-à-dire que M. Naouri n'a pas reconnu ses erreurs. Il dit qu'il a pris des décisions, sauf que les décisions qu'il a prises étaient à l'inverse de l'actualité. On peut revenir sur la période Naouri. Naouri est arrivé chez Casino en 97. À une période difficile où il y avait une OPA sur Casino. Hein. À l'époque, c'était un groupe de distribution qui a été absorbé par Carrefour, qui avait fait une OPA, et M. Naouri, à travers la filiale Rallye, avait fait une contre-OPA. Il y a eu une première partie, quelques années, où Antoine Guichard était encore présent. Ça s'est très bien passé. Et puis ensuite, avec la disparition d'Antoine Guichard, Jean-Charles Naouri a assuré à la fois les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général. Manifestement, il n'était pas à la hauteur de la direction d'un groupe de grande distribution. C'était un financier, mais pas un distributeur.
C'est quand même terrible, parce qu'on parle d'un des principaux artisans de la modernisation des marchés financiers, 84-86, voilà, à côté de Berrego. Alors, en effet, peut-être qu'il aurait dû rester dans le monde de la finance et pas se lancer dans la distribution.
C'était peut-être trop infinancier.
C'est une histoire de 30 ans. Et pour suivre ce que disait ce responsable syndical, en fait, c'est ce qui a marqué beaucoup les salariés et les responsables syndicaux ces dernières semaines et ces derniers mois, c'est qu'ils ne le voyaient plus, en fait. Et l'impression d'être lâché en race campagne, en fait, parce que même physiquement, il était
plus là. Personne ne voit Jean-Charles Naouri.
Oui, mais il était présent avant, plus. Et dans certaines échéances judiciaires, d'ailleurs, il a fini par ne plus venir, visiblement, ce qui les a beaucoup marqués. Oui. En revanche, et ça, c'est un gage, on verra bien, parce qu'il y a un syndicaliste qui nous a dit « Moi, je crois ce que je vois », une autre qui a dit « J'ai envie de le croire ». Philippe Palladi a montré très tôt sa présence, et en tout cas, ça a été bien reçu par les salariés. En montrant qu'il allait s'investir.
Surtout, c'est qu'il y avait des solutions il y a encore un an. Il y a un an et demi, il y avait des solutions.
Il a plus d'énergie à durer qu'à faire. Voilà.
C'est une page qui se tourne.
Absolument. Merci à tous les trois. Merci Emmanuel Le Chip qui s'est déjà éclipsé. Merci beaucoup Pauline. Merci Thomas.
Merci.
Edwige, à demain. Alors demain soir, gros rendez-vous.
Passionnant. Hein. Oui. C'est Patrice Kane, le patron de Thales. On va parler d'intelligence artificielle parce qu'il investit massivement dedans. Il crée une filiale spécialisée. Il va nous expliquer pourquoi c'est très si important dans la défense et dans l'avionique. Et puis on parlera d'économie de guerre parce que Thalès est touché au vent en premier chef.
On parle d'Atos un peu peut-être aussi.
Bah forcément quand on parle de cybersécurité. Bah, enfin, question. Il l'avait déjà expliqué quand je l'avais interrogé. C'était au salon du Bourget. Il nous avait déjà dit, souvenez-vous, qu'il n'était pas intéressé.
Oui.
On verra. Comme quoi il a la suite dans les idées.
Le sujet, affaire à suivre. Merci beaucoup Edwige. À demain 18h58. On revient dans un instant, nous, bien sûr.
Oui, absolument. On vous parle réindustrialisation. On vous parle déconsommation aussi. Ça va pas forcément ensemble, mais on vous en parle quand même.
À tout de suite.
À tout de suite.
Good Evening Business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.